journal. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. La France a une manière cruelle de gérer les sans-abri. L'état des lieux sévère des Nations Unies sur le mal logement dans notre pays. Résultat d'une tournée de 10 jours de la rapporteure de l'ONU. Les détails dès le début du journal. Le soulèvement ne cesse pas au Soudan. Omar el-Béchir déposé, l'armée prend le pouvoir pour 2 ans d'intérim. Mais la rue demande également son départ. Au sommaire également ce soir, 2 associations de consommateurs qui ne veulent pas de la hausse du prix de l'électricité. Le rugby français qui ne veut pas d'un sélectionneur étranger pour le 15 tricolore. L'affaire Florence Cassé au Mexique, démontée pièce à pièce dans un roman. Et puis le temps du week-end, des averses et des températures en baisse. La France n'est pas à la hauteur dans sa gestion des sans-abri. Elle ne respecte pas les droits de l'homme. Ce sont les Nations Unies qui le disent. La rapporteure spéciale de l'ONU sur le mal-logement vient donc de passer 10 jours dans l'Hexagone et vous l'avez rencontrée. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Elle a visité des campements, des squats, des logements insalubres et son constat est donc très sévère.
Oui, Leilani Farah décrit un système français souvent inefficace, cruel même. Ce sont ces mots, avec des évacuations répétées de campements de migrants, de de sans-abri en violation totale du droit international et un parc de logements privés très dégradé. La rapporteure spéciale s'est rendue à Grande-Synthe mais aussi à Clichy-sous-Bois ou encore Marseille après le drame de la rue d'Aubagne. Pour conclure sa mission, un réquisitoire, vous allez l'entendre, assez dur. Je dois dire que c'est l'une des missions, la mission qui m'a le plus touchée, bouleversée même, parmi toutes mes missions. Et cela alors que j'ai été en Égypte ou en Inde. La France est la 6e puissance mondiale et pourtant j'y ai vu de grandes souffrances. C'est aussi l'écart entre les ambitions affichées et la réalité qui l'a le plus choqué. Un numéro 115 qui ne fonctionne pas, elle dit l'avoir testé 3 fois en vain. Une loi sur le logement opposable quasi unique au monde mais quasi inapplicable et des réformes inquiétantes.
Avec une préoccupation concernant le parc social français.
Oui, ces récentes coupes budgétaires qui font craindre une baisse de la construction de logements sociaux et l'accélération de la vente HLM, de mauvais signes, dit-elle, dans un contexte mondial de financiarisation du logement avec des fonds d'investissement qui font flamber les prix de l'immobilier. On demande aux bailleurs sociaux de vendre 40 000 logements par an. Lorsque vous savez qu'il y a ces fonds vautours qui n'attendent que ça, acheter d'un seul coup des centaines ou des milliers de logements bon marché, c'est très inquiétant. Pas de réaction officielle encore du gouvernement français.
Mais comme en réponse à cet état des lieux de l'ONU, merci Claire Chaudière. Édouard Philippe a signé aujourd'hui à Marseille une convention de 117 millions d'euros pour la rénovation urbaine justement et la réhabilitation de l'habitat dégradé. On rappelle les chiffres de l'INSEE concernant les SDF en France. Près de 140 000 personnes sont sans domicile fixe dans notre pays. Près de 12 000 dorment dans la rue et 566 y sont mortes l'an dernier. La France, cruelle dans sa manière de gérer les sans-abri, pas tellement plus humaine avec les migrants qui espèrent en Méditerranée. Paris accueillera 20 des 64 personnes bloquées depuis plusieurs jours au large de Malte, à bord du navire de l'ONG CI. Nouvel épisode, Isabelle Labéry, qui montre que les Européens ont bien du mal à s'entendre sur le sujet.
Cela fait 9 jours que le navire Alan Kurdi et ses passagers errent entre Malte et l'Italie. 9 jours à attendre qu'un port les laisse accoster. 9 jours à espérer en vain que les capitales européennes cessent de se renvoyer la balle. Yann Ribeck est le porte-parole de l'ONG CI.
Pendant qu'on attendait, on a eu 2 évacuations médicales. On n'est pas sur un navire de croisière, c'est un tout petit bateau où l'équipe médicale travaille 24 heures sur 24. Chaque jour supplémentaire en mer peut créer des problèmes. Mais tout ça fait partie d'une stratégie pour évincer les associations humanitaires des zones de sauvetage.
La semaine dernière, l'Union européenne a mis un terme aux opérations navales de Sophia, une mission militaire destinée à lutter contre les trafics de migrants, mais qui, depuis 2015, a sauvé plusieurs milliers de réfugiés. L'ONG CI, épaulée par plusieurs eurodéputés, demande le redéploiement de ces bateaux. L'Alan Kurdi, en mer depuis le mois de décembre, est désormais le seul navire de sauvetage à patrouiller en Méditerranée.
Deux campements de migrants ont encore été évacués ce matin dans le nord de Paris. Près de 300 personnes, afghans, érythréens et soudanais. Les Soudanais qui veulent continuer la valse après Bachir, leur dictateur renversé après 30 ans de règne. Ils veulent maintenant le départ des généraux qui ont pris sa place hier. Mais les militaires qui viennent de prendre le pouvoir pour 2 ans de transition, Claude Guibal, ont l'intention de rester.
Sur les images relayées sur les réseaux sociaux par les manifestants, la foule, toujours massée dans les rues de Khartoum. La foule qui dit qu'elle ne se taira pas tant que Ibn Aouf est en place. Ibn Aouf, le nouvel homme fort du Soudan, le ministre de la Défense d'Omar el-Béchir, qui préside donc le conseil militaire qui entend diriger la transition. Un homme qui incarne l'ancien régime, bref, pas le militaire auquel les manifestants aspiraient lorsqu'ils ont demandé à l'armée d'assurer la transition. Ce matin, les militaires ont pourtant cherché à rassurer les manifestants. Ils ont garanti que ce serait un gouvernement civil qui dirigera le pays. L'armée s'est engagée à discuter avec toutes les forces en présence et à Khartoum, les consultations se multiplient tous azimuts. Tout le pays suit avec inquiétude ces négociations, car c'est seulement la composition globale de ce conseil militaro-civil qui permettra de donner une indication significative sur la suite des événements et de savoir si une 7e nuit consécutive, la foule maintiendra la pression dans les rues de Khartoum et toutes les grandes villes du Soudan.
Les généraux confirment aussi qu'Omar el-Béchir est en détention. Ils assurent qu'il ne sera pas livré à l'étranger. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 10 ans, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Les Algériens, eux aussi, sont mobilisés contre leurs dirigeants. On en parlait dans le journal de 18h. Le remplacement d'Abdelaziz Bouteflika par Abdelkader Ben Salah ne change rien à leur mobilisation. 8e vendredi consécutif de manifestations, notamment à Alger. Le premier depuis l'annonce de la présidentielle le 4 juillet. Scrutin d'ores et déjà frauduleux, selon eux. Le mot-clé sur les réseaux sociaux, c'est « ils partiront tous ».
Il est 19h07 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Paour. Avec Sébastien, les associations de consommateurs qui ne veulent pas de la hausse de l'électricité.
Oui, l'UFC Que Choisir et la CLCV menacent de saisir le Conseil d'État contre la hausse programmée des tarifs réglementés. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
Elle demande à Emmanuel Macron de ne pas appliquer cette augmentation de près de 6%. Calcul officiel dit mais qui n'est plus légitime.
Le gouvernement ne peut donc pas se retrancher derrière cette augmentation automatique et annuelle des tarifs de l'électricité, estiment les associations. Car cette année, le calcul des tarifs, sa formule et la méthodologie retenue ne seraient tout simplement pas légales. L'UFC Que Choisir et la CLCV s'appuient pour étayer ces dénonciations sur un avis de l'autorité de la concurrence. Le calcul censé répercuter la hausse annuelle des coûts de fabrication d'électricité par EDF serait devenu beaucoup trop subjectif, expliquent les associations. Oui, les coûts d'EDF augmentent bien cette année, mais pas de 6%, plutôt de la moitié. Le gouvernement ne peut donc ignorer que l'autorité de la concurrence dénonce elle-même ce calcul, qui apparaît comme déconnecté aujourd'hui des règles légales. Cette hausse annoncée de 6% ne serait donc pas légitime et devient donc contestable devant le Conseil d'État, menace les associations.
Laurent Kramer, les suicides dans la police ne sont pas une fatalité. Ainsi parle le ministre de l'Intérieur devant les gardiens de la paix. 24 policiers et 2 gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année. Christophe Castaner annonce la mise en place notamment d'une cellule de vigilance. Il était temps pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat CFDT Alternative Police, au micro de Christophe Richert.
Trop c'est trop, ça a trop duré, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans qu'on le dénonce, ça fait 20 ans qu'on nous annonce des plans et ça fait 20 ans qu'on n'en voit que peu les faits. Donc on espère que ce que Christophe Castaner a annoncé aujourd'hui sera enfin efficace. La grande majorité des suicides, ce n'est pas en dehors du lieu de travail que le policier passe à l'acte. Souvent, c'est dans les vestiaires, c'est dans un bureau. Donc il est en service, il a son arme. Donc de toute façon, c'est pas la question de l'arme. Vous avez aussi malheureusement des collègues qui se pendent. On a eu le cas dimanche dernier. On a retrouvé ce collègue. C'est pas la question de l'arme. La question de l'arme, je dirais, c'est la conséquence à la cause. Il faut s'attaquer à la cause.
C'était il y a 25 ans, dans la nuit du 27 septembre 1994, un ferry coulait en moins d'une demi-heure en mer Baltique entre Tallinn et Stockholm. 989 personnes à bord, 852 morts. L'enquête a conclu à un accident, mais un millier de rescapés et de familles de victimes ont lancé une procédure civile contre le constructeur allemand du navire et contre le certificateur français Bureau Veritas, basé à Nanterre. Ils veulent savoir, Laurélie Carif, pourquoi le bateau a sombré.
Depuis ce matin, c'est une bataille d'arguments juridiques, souvent très techniques. Dans la salle d'audience, on ne voit que des robes noires, une bonne dizaine d'avocats qui s'invectivent et se contredisent. Aucune victime n'a fait le déplacement. Comment le ferry a-t-il pu sombrer en une demi-heure sans cause extérieure? C'est la question centrale de ce procès civil. Le constructeur allemand nie tout défaut de conception, mais par la voix de son avocat, souligne qu'après 14 ans de bons et loyaux services, l'Estonia était dans un état lamentable. La partie avant du bateau fissurée et des accès laissaient passer des tonnes d'eau. Les verrous ont donc lâché. Inexpérimenté, le commandant du navire n'aurait pas non plus réduit sa vitesse malgré la tempête. Dans ce dossier, toutes les thèses sont des hypothèses, estime de son côté Bureau Veritas. L'organisme qui aurait contrôlé l'Estonie à 7 fois l'année du naufrage dit n'avoir rien à se reprocher. À les entendre, on dirait qu'il n'y a jamais eu 852 morts, s'insurge François Lombrez, avocat des familles. Ils étaient au courant qu'il y avait eu des incidents similaires. Ce navire n'aurait jamais dû naviguer à haute mer. Il réclame 40 millions d'euros au titre du préjudice moral.
Et le procès se poursuivra lundi devant le tribunal de Nanterre. 757 corps n'ont jamais été retrouvés. L'épave du navire repose à 85 mètres de fond. Le chanteur marocain Saad Lamjared, renvoyé en correctionnel à Paris. Il était mis en examen pour viol, mais il sera finalement jugé pour agression sexuelle et violences aggravées. Carlos Ghosn reste en prison au Japon, détention prolongée de 8 jours pour engager d'éventuelles poursuites. L'ancien patron de Nissan est cette fois soupçonné d'enrichissement personnel et accusé d'avoir causé 5 millions de dollars de pertes aux constructeurs japonais entre décembre 2015 et juillet dernier.
La Cour pénale internationale refuse d'ouvrir une enquête en Afghanistan.
Les juges de la CPI rejettent la demande de la procureure qui voulait enquêter sur des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre présumés commis par des soldats américains depuis 2003. Les États-Unis, qui voyaient d'ailleurs l'enquête arriver, ont révoqué le visa de la procureure il y a une semaine. Et ce soir, Donald Trump salue une grande victoire après cette décision de la CPI. L'État Liban, pendant ce temps, lance l'offensive annuelle de printemps. Même si les combats n'ont pas fait de pause cet hiver et même si les pourparlers de paix se poursuivent avec Washington, les rebelles viennent d'ailleurs d'accepter pour la première fois de rencontrer les représentants du gouvernement. Les précisions à Kaboul de Sonia Ghazali.
Al-Fatah, la conquête ou la victoire éclatante, c'est le nom que les talibans ont donné cette année à leur offensive de printemps. Elle marque traditionnellement le début des combats sur le terrain. Dans les faits, depuis quelques années, les violences ne cessent pas durant l'hiver, mais sont simplement ralenties en raison des difficultés à se déplacer. L'annonce des talibans intervient à 3 jours du nouveau round de pourparlers entre les États-Unis et les représentants du groupe armé à Doha, au Qatar, pour la première fois depuis le début des discussions bilatérales qui ont commencé l'année dernière. Les talibans ont accepté de rencontrer certains membres du gouvernement, à la condition qu'ils s'expriment à titre individuel, ont-ils précisé. Les insurgés considèrent illégitimes les autorités afghanes qu'ils qualifient de marionnettes aux mains des Américains. Malgré les discussions, les combats sur le terrain continuent. Ils se sont même intensifiés ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Le contrôle ou l'influence qu'exercent les talibans sur près de 50% du territoire leur donne une position de force indéniable à la table des négociations.
Le rugby français ne veut pas d'un entraîneur étranger pour le 15 tricolore. Bernard Laporte y pensait. Les clubs disent non, non à 59%, résultat d'une consultation organisée en ligne cette semaine. Le prochain sélectionneur sera donc français. Le patron de la fédération s'est engagé à respecter le choix de la base. Faux débat pour l'ancien capitaine du 15 de France, Fabien Pelousse, joint par Nicolas Taillard.
L'entraîneur national doit correspondre à certains critères, notamment connaître le rugby français, parler français, ça me paraît la moindre chose. Et effectivement, les Français sont bien placés, mais pas que. Il y a des entraîneurs étrangers qui connaissent aussi le rugby français pour y avoir œuvré. Et c'est se priver aussi de ces compétences-là. L'équipe de France doit être aussi l'image et la résurgence en fait du rugby français. Et effectivement, pour mener à bien cette équipe-là, il me semble que connaître le rugby français et connaître la structuration et les spécificités du rugby français, ça me paraît importantissime. Et donc il y a effectivement des entraîneurs, pas forcément en termes de nationalité encore une fois, qui peuvent correspondre.
En tout cas, le futur sélectionneur sera à la tête du 15 de France pour la Coupe du Monde 2023 qui est organisée en France. Clémence Calvin sera fixée sur son sort ce soir ou demain au plus tard. La vice-championne d'Europe du marathon veut courir celui de Paris qui se tient dimanche, mais elle est suspendue parce qu'elle n'a pas respecté un contrôle antidopage. Le Conseil d'État va donc se prononcer dans les prochaines heures et en attendant, le parquet de Marseille ouvre de son côté une enquête pour infraction à la législation sur les produits dopants.
Et à présent, Sébastien, une histoire, on va dire, pas banale.
Oui, c'était hier soir à Saint-Martin-Vésubie, on est dans le Haut-Pays niçois. Un adolescent sort indemne d'une chute de 70 mètres dans une remorque. François Rosy, il y avait aussi dans cette remorque une vache.
L'histoire se déroule vers 20h. Une équipe de tournage vient réaliser un spot publicitaire pour un grand groupe de supermarchés, un spot sur le fromage de Savoie. Au moment de repartir du col de Salle, la vache est chargée à bord d'une remorque tractée par un pick-up. L'animal est accompagné par le fils du propriétaire du bovin, un adolescent de 15 ans. Et là, erreur de manipulation au démarrage, la remorque se décroche et chute dans une pente de 70 mètres. Pas une falaise non plus, mais la remorque fait tout de même quelques tonneaux. Les pompiers parviennent sur les lieux et réussissent difficilement à extraire l'adolescent et sa compagne d'infortune. Miracle, le jeune homme souffre seulement de quelques contusions. Il est sain et sauf, la vache également.
François Rosy à Nice pour cette histoire, sans doute inédite. On termine avec une affaire qui a déclenché une crise diplomatique entre la France et le Mexique en 2005, l'affaire Florence Cassé. Cette Française arrêtée avec son compagnon mexicain et accusée notamment de plusieurs enlèvements. Elle a été condamnée à 90 ans de prison avant d'être libérée, notamment grâce à l'intervention à l'époque de Nicolas Sarkozy. L'écrivain mexicain Roré Volpi a repris toute l'affaire dans son livre « Un roman mexicain » et il dénonce, Ilana Moriusef, une gigantesque intox politique et médiatique.
En espagnol, le livre s'appelle « Un roman criminel ». Mais les criminels de l'histoire ne sont pas ce que l'on croit. Mais n'anticipons pas. Au tout début, il y a la fascination de Jorge Volpi pour une affaire hors norme.
En 2014-15, j'ai lu un reportage de la journaliste belge Emmanuel Stils sur la famille Bayard. Je me suis rendu compte qu'il y avait là-bas une vraie histoire avec un côté personnel, un côté amoureux, un côté policiel, un côté criminel, un côté politique et diplomatique.
Volpi a compulsé les 20 000 pages du dossier. Il a parlé aux témoins, aux accusés. Sous nos yeux effarés, il démontre les mensonges, les manipulations, les destructions de preuves de la police mexicaine avec la bénédiction du pouvoir politique de l'époque.
J'ai commencé mon enquête, ma recherche, sans savoir exactement s'il était coupable ou innocent. J'ai essayé de trouver la vérité dans les dossiers, dans l'enquête, mais à la fin j'ai trouvé que les vrais sujets de roman c'était une autre. C'était comment la police, les juges, les pouvoirs ont fait l'impossible pour détruire la vérité et la possibilité d'arriver à la vérité.
Si Florence Cassé a été extraite du cauchemar grâce à sa nationalité française, 13 ans après, Israël Vallarta, son ancien compagnon, est toujours en prison sans avoir été jugé.
Ça s'appelle « Un roman mexicain, l'affaire Florence Cassé ». C'est signé Roré Volpi et c'est sorti hier aux éditions du Seuil. À l'instant, cette dernière minute, un an et demi que les fans l'attendaient, le 9e épisode de la saga Star Wars a enfin un nom, The Rise of Skywalker. Il a été dévoilé il y a quelques minutes avec un premier extrait à l'occasion de la grande convention annuelle des fans. Ça se tient à Chicago.
We've passed on all we know. A thousand generations live in you now.
Bon voilà, ça vient d'être diffusé à Chicago. En tout cas, le titre de ce prochain épisode, c'est The Rise of Skywalker. Ça fait très envie, vous avez raison. Le film sortira le 20 décembre prochain, c'est bien ça qui compte. En tout cas, les fans savent de quoi on parle. Et ils attendaient le nom de ce nouvel épisode. Merci à Clément Berman, Michel Bézikian, qui toute la semaine était aux manettes des journaux de France Inter, 13, 18 et 19h.
Merci beaucoup Sébastien Paour.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Rebonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire.
Beaucoup de soleil, mais aussi un peu de neige sur le relief du Nord-Est.
Oui, journée ensoleillée demain entre les plages de la Manche et de l'Atlantique jusqu'au Massif central, au Languedoc-Roussillon et aux Bouches-du-Rhône. Entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Bourgogne et le Dauphiné, l'après-midi sera un peu plus variable, mais les éclaircies resteront belles. Le temps sera plus mitigé sur le Nord-Est, notamment l'après-midi, puisqu'on attend de la neige. Des 300 mètres d'altitude sur les Ardennes, 500 mètres sur les Vosges, un peu plus haut sur le Jura et les Savoies. On n'attend pas quand même de très grandes quantités. Hein. Beaucoup de nuages également sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse. Des averses vont se développer au fil des heures avec des risques d'orage et de grêle l'après-midi. Et puis les températures seront parfois assez fraîches sur la moitié nord, notamment le matin avec de fréquentes gelées. Mais il fera encore jusqu'à 21 degrés dans le sud demain après-midi.
Et un petit mot pour dimanche ?
Eh bien l'ambiance sera encore plus fraîche avec une baisse des températures. Les gelées seront encore plus nombreuses et les maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 16 degrés dans le sud-ouest et 19 degrés autour de la Méditerranée. On gardera encore un peu d'instabilité entre les Alpes du Sud et la Corse, mais les averses deviendront de plus en plus rares. Le soleil et les belles éclaircies domineront de la Normandie au bassin parisien jusqu'au Lyonnais, au Midi toulousain et aux plages de la Méditerranée. Et puis les nuages seront un peu plus nombreux sur le nord et le nord-est, mais c'est au sud de l'Aquitaine et sur la Bretagne que le ciel sera plus chargé, avec même quelques gouttes vers le Finistère.
Alors courez-vous bien. Merci Sébastien Léas de Météo France.